une détermination résolue et immuable, le 15 juin 2004. Nous sommes ici pour trouver le bonheur véritable. C'est la raison pour laquelle le Bouddha quitta son palais et partit dans la jungle. Il n'était pas satisfait du bonheur que l'on peut trouver dans la vie normale, la vie quotidienne. Il voulait un bonheur qui soit fiable, un bonheur qui vaille vraiment tous les efforts qu'on y consacre pour l'atteindre. D'une manière ou d'une autre, toutes les formes de bonheur requièrent un effort. La question est, valent-elles cet effort? En termes de choses fabriquées, de choses conditionnées, souvent la réponse est non. En fait, si vous faites d'une chose conditionnée quelconque une fin en tant que telle, l'effort n'en vaut pas la peine, car en fin de compte, elle vous laissera en plan. Cependant, le Bouddha se rendit compte que les choses conditionnées avaient également un autre aspect. Non seulement elles sont conditionnées, mais elles sont aussi conditionnantes. En d'autres termes, en tant que choses conditionnées, elles dépendent d'autres causes. Elles apparaissent en accord avec l'apparition et la disparition de ces causes, parfois immédiatement, parfois après un certain temps. Mais ensuite, elle engendre elle-même d'autres choses. La découverte majeure du Bouddha fut que même si certaines choses sont conditionnées, en d'autres termes, les éléments de la voie sont conditionnés, elles peuvent conduire à une ouverture sur l'inconditionné. Et c'est ce qui fait que la voie est digne d'intérêt. C'est ce qui donne de l'espoir à nos vies. En Thaï, il y a un terme pour l'état d'esprit où tout ce que vous pouvez voir est le mauvais côté des choses conditionnées. Tout disparaît, 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 et tout commence à apparaître sans espoir, vain. On appelle cela l'équanimité étroite. En d'autres termes, vous devenez désenchanté de tout. Mais ce désenchantement ne conduit pas à une ouverture sur le sang mort. Vous restez bloqué là, du côté du désenchantement. Si vous restez bloqué là, il est facile de perdre espoir, de devenir apathique, déprimé. Mais le Bouddha a aussi montré un autre aspect des choses conditionnées. Un potentiel pour le bonheur véritable se trouve ici, dans la pratique. Nous fabriquons les choses conditionnées. La vue juste, la résolution juste, et ainsi de suite jusqu'à la concentration juste. Ce sont toutes des choses conditionnées. Ce sont les plus élevées de toutes les choses conditionnées. Mais même si ce sont les choses les plus élevées, vous ne vous arrêtez pas là. Elles constituent une voie. Elles s'ouvrent sur quelque chose d'encore plus grand. Donc, assurez-vous que vous regardez la vie de deux côtés. En d'autres termes, vous vous focalisez sur les inconvénients qu'il y a à considérer les choses conditionnées comme étant votre but, afin de ne pas devenir complaisant. Parfois c'est facile. Vous obtenez un état de méditation agréable et calme. La vie autour de vous apparaît assez facile. Et il est très tentant, et cela arrive à de nombreux méditants, de dire que c'est suffisamment bien ici même. C'est pour de tels cas que le Bouddha montre tous les inconvénients des choses conditionnées, tous les inconvénients du bonheur conditionné. Non seulement vous gaspillez beaucoup d'efforts en créant ce bonheur, mais parfois, afin de le préserver, vous commencez aussi à faire des choses qui vont à l'encontre des préceptes, qui vont à l'encontre des principes de la moralité, de la concentration et du discernement, ce qui fait que votre bonheur conditionné provoque de la souffrance non seulement lorsqu'il disparaît, mais aussi en conduisant à toutes sortes de mauvaises choses. Donc, vous devez faire attention. Vous ne pouvez pas être complaisant. D'un autre côté, le Bouddha insiste sur le fait que la vigilance paie vraiment. Si tout était négatif alors, quel que soit le degré de vigilance ou de prudence dont vous faites preuve, il n'y aurait aucune chance d'obtenir un bonheur véritable. Mais l'action habile paie vraiment. C'est la raison pour laquelle la vigilance est si importante. Si vous êtes prudent, si vous êtes circonspect, cela fera une énorme différence. Donc, nous devons nous demander quel est le type de bonheur que nous allons poursuivre dans notre vie. Et nous devons être résolus et immuables dans la pratique, parce qu'il est très facile de s'égarer dans d'autres directions. Il est flagrant que certaines des petites routes sont mauvaises et que d'autres sont relativement bonnes. Avec les bonnes, il est facile de se convaincre et de se dire « Bien, c'est une bonne chose à faire, il n'y a rien de mal à faire ceci. » De façon générale, oui, c'est peut-être vrai. Mais ce n'est qu'un pis-aller si cela ne conduit pas jusqu'à l'inconditionné. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous arrêter là. Vous ne pouvez pas quitter la route à cet endroit-là. Vous devez être prudent pour pouvoir garder le cap. Le problème est que nous venons à la pratique avec plusieurs états d'esprit à la fois. Il nous manque une détermination résolue et immuable. Dans son dernier enseignement sur le Dhamma, Ajahn Mun a parlé de la détermination résolue et immuable comme étant l'élément essentiel de la pratique, la détermination résolue et immuable de ne pas revenir et de ne pas laisser les souillures vous piétiner comme avant, la détermination de ne pas revenir souffrir. Mais cette détermination est quelque chose que nous devons développer avec le temps. Nous n'abordons pas la pratique ainsi. Nous commençons en ayant deux ou trois états d'esprit à propos de la chose dans son ensemble. C'est en cela que consiste tout l'entraînement de l'esprit, à rassembler l'esprit autour de ce but résolu et immuable, cette intention résolue et immuable. Ce type d'entraînement commence avec les préceptes. Il nous montre exactement là où notre esprit est pluriel. Lorsque vous observez les préceptes, vous devez vous focaliser tout le temps sur vos intentions. Lorsque vous apprenez à connaître vos intentions, vous commencez à vous rendre compte que l'esprit est comme un comité. Parfois, ce n'est pas seulement un comité, c'est une foule tout entière. Même la concentration n'est pas le type de résolution et d'immuabilité dont nous parlons. Mais c'est un prérequis fondamental. Elle fait partie de l'entraînement qui vous y conduit. Nous prenons une intention et nous courons avec elle aussi loin que nous pouvons, face à des intentions contraires inévitables qui la neutralisent. Au début, il est inévitable que l'intention de rester avec la respiration, de rester avec la méditation soit faible, et il est facile de perdre le cap. Mais au fur et à mesure que vous commencez à vous sentir chez vous ici, à l'aise ici, vous devenez plus résistant à la déstabilisation, parce que vous ne voulez pas abandonner ce que vous avez obtenu. Vous sentez que c'est l'endroit où il faut être. Ensuite, vous pouvez commencer à vous attaquer aux intentions qui sont plus profondément enracinées et qui se mettent en travers de votre chemin. Vous les démontez pour comprendre. Pourquoi semble-t-elle avoir tellement de force? Vous surmontez la distraction. Vous surmontez les souillures de l'esprit. Non pas en les repoussant et en faisant semblant qu'elles ne sont pas là, mais en les comprenant. Et comprendre signifie avoir la capacité de les observer depuis un point de vue bien ferme. C'est à cela que sert la concentration. Lorsque les choses continuent à apparaître, vous vous rendez compte « Je ne veux pas vraiment accepter cette intention-ci, et cette intention-là non plus. » Donc, vous élaguez jusqu'à ce que vous rencontriez les grosses souillures, celles qui sont vraiment importantes. Parfois, elles vous font perdre votre cap à nouveau, ce qui est un signe que votre concentration et votre vision pénétrante ont besoin d'un développement supplémentaire. La voie de la pratique n'est pas une ligne droite régulière sur un graphique. Elle a des hauts et des bas. Elle a ses drames. Ainsi que vous l'apprenez dans tout atelier d'écriture. Un des principes fondamentaux de la construction d'une histoire est qu'elle doit connaître des complications afin d'être intéressante, afin d'être réaliste. De la même manière, l'histoire de votre pratique du Dhamma va inévitablement connaître des complications. La différence étant que vous ne la lisez pas, vous la vivez. Et très souvent, vous préféreriez ne pas faire l'expérience de ces intéressantes complications. Mais rappelez-vous continuellement la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous êtes ici pour le bonheur véritable, le bonheur authentique, un bonheur qui ne va pas vous laisser tomber, un bonheur qui vaudra bien tous les hauts et les bas qui vont de pair avec sa découverte. Lorsque vous regardez tous les autres bonheurs que vous obtenez en quittant la voie, vous voyez qu'ils vous laissent tout tomber d'une manière ou d'une autre. Vous en rendre compte vous aide à vous remettre sur la voie, si bien qu'en fin de compte, vous pouvez commencer à éliminer les grosses distractions, les grosses souillures. Mais que les souillures soient grosses ou petites, elles requièrent une pratique similaire, une technique similaire. Vous voyez là où il y a du stress. Vous voyez ce que vous faites et qui provoque ce stress. Et vous voyez que vous n'êtes pas obligé de faire cela. Vous pouvez arrêter. Vous pouvez relâcher. C'est le schéma fondamental. Simplement, avec des facultés de concentration plus fortes, un sati plus fort, une attitude d'alerte plus forte, vous pouvez éliminer des choses que vous n'auriez pas pu trancher avant. Avec le temps, cette détermination résolue et immuable de ne pas vous laisser souffrir devient de plus en plus forte. Elle joue un rôle de plus en plus important dans les discussions du comité, jusqu'à ce que finalement, elle devienne la voix unanime dans l'esprit. Toutes les autres voix ont été éliminées. Soit c'est cela, soit elles ont été converties. Mais même lorsqu'il reste encore quelques voix traîtresses tapies à l'arrière-plan, souvenez-vous que la voix importante est celle-ci, celle qui est résolue à ne pas s'arrêter pour rien de moins que le bonheur véritable. Essayez de renforcer cette voix autant que vous le pouvez, parce que c'est la voix qui a aidé le Bouddha à rester dans la voie et à arriver à l'éveil. Examinez tous les revers qu'il a rencontrés au cours de sa pratique, trouvant des maîtres et ensuite se rendant compte qui ne pouvait pas le mener jusqu'au bout du chemin, allant aussi loin que les austérités pouvaient le mener, et ensuite se rendant compte qu'elles ne permettaient pas d'aller jusqu'au bout du chemin non plus. Et à ce moment-là, il a été coincé. Il avait essayé toutes les alternatives suggérées dans sa culture, et elles n'avaient pas marché. Mais il était résolu à ne pas abandonner. C'est ce qui l'a aidé à rester dans la voie et arriver à l'éveil. Quelle que soit la part de ce type de détermination qu'il y ait en vous, c'est ce qui va vous donner la force de vous remettre sur vos pieds, de vous épousseter et de continuer à avancer. Donc, assurez-vous que cette résolution reste nourrie, car c'est ce qui vous aidera à rester dans la voie et arriver à l'éveil.